Bonsoir et bon début de semaine à tous. Mobiliser la jeunesse africaine dans la lutte contre la corruption pour les lendemains meilleurs, c'est le thème de la conférence internationale organisée par l'Inspection générale des finances en collaboration avec le Forum des inspections générales d'État et institutions des contrôles assimilés d'Afrique à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre de chaque année. Prenons la parole pour le lancement des travaux, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a appelé les inspecteurs des finances à la persévérance et à la rigueur dans leur mission. Et selon l'ONG Transparency International, la RDC figure parmi les 15 pays les plus corrompus du monde. Comment lutter efficacement contre la corruption en RDC? Nous en parlons ce soir avec Ernest Mpararo. Il est secrétaire exécutif de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, l'ICOCO en sigle, mais aussi le point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Ernest Mpararo, bonsoir.
Oui, bonsoir madame.
Aussi avec nous dans ce débat, Passy Zapamba, député national élu de Pobokabaka, voilà, c'est dans le Congo. Il est vice-président du conseil d'administration du réseau des parlementaires africains contre la corruption, chapitre RDC. Il est membre de l'Union sacrée. Passy Zapamba, bonsoir.
Bonsoir madame la journaliste, bonsoir à tous les auditeurs de la radio.
Michel.
Bonsoir également à Ernest Mpararo.
Merci. Michel Bissa est aussi avec nous dans ce débat. Il est professeur à l'Université de Kinshasa et secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, un laboratoire de recherche en sciences sociales. Michel Bissa, bonsoir. Michel Bissa, bonsoir. Je pense que nous l'avons perdu. La réalisation va essayer de le rappeler. Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Junior Jackson Lokwa. Aussi longtemps que les vrais acteurs de la corruption sont dans les institutions publiques, ils sont applaudis, chantés, loués. Il est difficile de combattre la corruption en RDC. À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiorepi.net, sur DSTV canal 867. Vous avez la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook. Le compte X, c'est la chaîne YouTube de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
La corruption est une perversion morale et sociale, un affaiblissement insidieux de nos institutions. Déclaration du président Félix Tshisekedi ce lundi lors de la conférence organisée par l'Inspection générale des finances à Kinshasa dans le cadre de la journée internationale de lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre de chaque année. Le président Félix Tshisekedi a par ailleurs réitéré sa détermination à créer un environnement juridique institutionnel plus stable à la lutte contre la corruption. On l'écoute.
Dans un pays comme la République démocratique du Congo, riche de ses ressources naturelles, de ses hommes et de ses femmes, de son histoire, de sa jeunesse nombreuse et dynamique, la corruption constitue un frein cruel. Elle bloque les investissements constructifs, entrave l'amélioration des services publics, fragilise notre système sanitaire et éducatif, alimente l'injustice et creuse les inégalités. La corruption détourne l'argent public de son but initial, qui est de construire des routes, des écoles, des hôpitaux, garantir un accès à l'eau potable, à l'électricité et à la santé ou à la justice. Les fonds destinés aux programmes de formation, aux initiatives en faveur de la jeunesse, se perdent, privant ainsi nos enfants et nos étudiants du bagage dont ils ont besoin pour porter le flambeau du futur.
C'était là Félix Tshisekedi lors du lancement des travaux de la conférence organisée par l'inspection générale des finances. Ernest Mpararo, je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, l'ICOCO en sigle. Vous êtes le point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Comment d'abord vous analysez, quel est votre point de vue, votre lecture par rapport à cette conférence organisée par l'IGF dans le cadre de la lutte contre la corruption, justement?
Oui, merci beaucoup, madame. Je pense que c'est une bonne initiative que nous avions soutenue d'ailleurs. Et je tiens à dire que la LICOCO est en partenariat avec l'inspection générale des finances. Donc nous collaborons et nous soutenons l'initiative de l'IGF. Et toutefois, je déplore, étant donné que le président était invité, il était présent, je m'attendais à ce que le président de la République puisse effectivement prendre des actions concrètes, puisse dire, écoutez, mes collègues ou mes amis ou mes partenaires de l'Union sacrée, je pense que l'honorable pourra aussi nous dire, mes partenaires de l'Union sacrée, est-ce que nous pouvons nous rencontrer pour dire non à la corruption? C'était ça une action que les citoyens congolais attendaient de lui, surtout en cette journée internationale de lutte contre la corruption. Malheureusement, bon, il n'a fait que des discours que nous avons déjà entendus plusieurs fois et que, effectivement, nous voudrions que les discours ne soient plus tenus et que ce soit les actions qui doivent être prises par les politiques.
Alors, vous dites que vous êtes partenaire de l'inspection générale des finances. Le thème pour cette conférence est mobiliser la jeunesse africaine dans la lutte contre la corruption pour les lendemains meilleurs. Qu'est-ce que, pourquoi avoir choisi ce thème?
Et c'est un thème international qui a été choisi par les Nations Unies et par tous les États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et cela a été accepté par tous les partis, tous les pays membres de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Effectivement, comme vous le savez, la jeunesse, c'est le moteur même du futur. Et si, dans nos pays, ici, les adultes ont déjà ont échoué à lutter contre la corruption, je pense que dans des pays qui fonctionnent très bien, on devrait former, on devrait donner l'opportunité à cette jeunesse qui a beaucoup d'initiatives, mais qui est une jeunesse qui n'a pas d'éthique et qui n'a pas d'intégrité. Et je pense que c'est dans ces formations à l'éthique et à l'intégrité que on peut avoir des jeunes qui pourraient venir remplacer ceux qui détournent et ceux qui s'adonnent à la corruption. Je pense que c'est un thème important, étant donné que ici en RDC, vous aviez suivi, au moins 40% de la population congolaise est jeune. Donc c'est une population de 40%, c'est beaucoup, sur les 80 millions, vous imaginez c'est combien. Donc je pense, pour nous, nous estimons que si cette jeunesse-là, on ne la donne pas les opportunités de formation, on ne les donne pas les opportunités de créer, on ne les donne pas des opportunités de se mouvoir, je pense que c'est une jeunesse qui pourra effectivement continuer à corrompre et continuer à détourner les fonds publics.
Vous êtes secrétaire exécutif de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, l'ICOCO en sigle, mais aussi le point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Justement, cette ONG classe la RDC parmi les 15 pays les plus corrompus du monde.
Effectivement, nous préparons effectivement à la publication de l'indice de perception de la corruption, ce qu'on appelle l'IPC. Et nous allons le publier pour 2024, au mois de février prochain de l'année prochaine, 2025. Mais pour le 2023, vous savez tous, la RDC a été classée parmi, avec 20%, la RDC a été classée parmi les pays les plus corrompus, effectivement. Et la corruption a des impacts, effectivement, sur la jeunesse. Vous aviez suivi il n'y a pas très longtemps, l'inspection générale des finances avait publié que l'ancien ministre de la formation professionnelle avait détourné des fonds pour la réhabilitation des centres de formation. Or, lorsqu'on détourne les fonds qui sont alloués à la formation de la jeunesse, vous voyez les impacts de cette jeunesse-là. Ce sont les gens qui applaudissent les hommes politiques, qui vont aller dans les groupes armés, qui seront des criminels urbains qu'on est en train de combattre actuellement dans les Koulouna. Pourquoi? Parce que cette jeunesse n'a pas d'encadrement, n'a pas de formation. On leur donne pas des emplois. Alors, c'est une jeunesse qui est vraiment une bombe à retardement pour le futur, pour la RDC.
Alors, Ernest Mpararo, c'est selon le rapport 2023, la RDC est parmi les 15 pays les plus corrompus de la RDC, mais contrairement à ce que Transparency International dit, l'Inspection Générale de Finances estime que depuis 2020, la RDC a gagné 15 places en 4 ans. Donc, ils estiment que depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi, la RDC est en train de s'améliorer par rapport à la lutte contre la corruption.
Bon, c'est tout à fait normal. Vous savez, l'Inspection générale des finances, c'est une institution publique. Elle ne peut que dire cela, mais les observateurs, les experts et tous ceux qui suivent la gouvernance en RDC savent que Transparency il prend beaucoup de facteurs pour effectivement classer les pays. Et je pense qu'il y a des experts qui sont en dehors même de Transparency qui effectivement évaluent les classements des pays. Et je pense que les classements parmi les 20 pays, c'est tellement c'est une réalité, étant donné que nous vivons cette corruption en RDC, et cette corruption est à nos portes et à nos fenêtres, même dans nos maisons, parce que nous vivons avec cette corruption. Et pour avoir des services de base, imaginez, vous partez à l'hôpital pour voir ton frère qui est à l'hôpital public, par exemple à Mamayemo, vous devez laisser des pots de vin aux gardiens de la sécurité. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui n'a pas été payé. Donc, nous avons ce genre de problème.
Ernest Mpararo. Je pense que sa ligne a coupé. La réalisation va essayer de le rappeler. Est-ce qu'il est là? Il est en ligne?
Oui, je vous écoute, madame.
Alors, vous avez été coupé hein, tout à l'heure, on vous a perdu. Vous étiez en train de parler de la corruption dans les institutions publiques. À Mamayemo, vous allez rendre visite à un cousin, un frère. C'est un exemple que vous avez donné. Hein. Il faut corrompre les portiers. Alors, selon vous, quels sont les secteurs les plus touchés hein, par la corruption en RDC, Ernest Mpararo?
Les secteurs les plus touchés, c'est les secteurs politiques.
Allô? Allô, Ernest Mpararo, est-ce que vous m'entendez? La réalisation, c'est vrai, la réalisation.
Oui, je vous écoute.
Oulala, c'est un problème. C'est un problème de connexion. Allez-y, vous avez la parole, très rapidement.
Oui, oui. Le secteur le plus corrompu, c'est, premièrement, c'est le secteur politique, les institutions politiques. Vous prenez la présidence, vous prenez la primature, vous prenez l'Assemblée nationale, vous prenez le Sénat, ce sont les secteurs et les cours et tribunaux. Donc, le secteur politique, les institutions politiques, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les institutions judiciaires. Et troisième.
Alors, on va essayer de vous rappeler, Ernest Mpararo. Décidément, votre ligne pose problème. Passi Zapamba, je rappelle que vous êtes député national, élu de Popo Kabaka, c'est dans le Kwango. Vous êtes vice-président du conseil d'administration du réseau des parlementaires africains contre la corruption. Vous êtes membre de l'Union sacrée de la nation. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des luttes contre la corruption. L'ONG Transparency International estime que la RDC reste parmi les 15 pays les plus corrompus du monde. De l'autre côté, on a l'IGF qui estime que depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi, les choses sont en train de s'améliorer. La RDC a même gagné 15 places. Votre analyse?
Merci, madame, de cette opportunité que nous offre encore la radio Okapi pour s'adresser une fois de plus au peuple congolais qui doit comprendre que si le peuple ne se prend pas en charge, un jour nous risquons de perdre ce pays à cause de la corruption. Alors, les propos de l'inspecteur général des finances sont corrects. Et parce que, comme l'a dit Ernest Mpararo, les réseaux de parlementaires africains contre la corruption collaborent effectivement avec l'IGF. On s'échange des informations parce que nous tentons parfois de parler ensemble des bonnes pratiques sur la gouvernance de la chose publique. C'est vrai que cette inspection fournit beaucoup d'efforts. Mais moi, je vous dirais, madame, que la RDC pourrait gagner encore beaucoup plus de postes si et seulement si les rapports de cette inspection générale des finances qu'il transmet dans les institutions, auprès des institutions judiciaires, étaient suivis des sanctions. Parce que l'inspection générale des finances est une administration. Et cette administration n'a pas le pouvoir de sanctionner. Les dégâts que constate cette inspection sont très, très énormes, à tel point que la justice devait, en principe, accompagner les chefs. Et si cela était le cas, s'il y avait des sanctions, parce qu'il n'y a pas meilleure façon de lutter contre la corruption sans la sanction. À la date d'aujourd'hui, les théories ont été développées. Vous avez suivi le président de la République lorsqu'il dit que la corruption affaiblit les institutions. Et vous comprenez que le sape des institutions démocratiques. Il l'a dit que la corruption corrompt l'état de droit. Et donc, moi, j'ajoute qu'elle crée même la bureaucratie. Elle réside donc dans la sollicitation de pots de vin. En bref, nous disons que celle-ci freine le développement en lieu et place de la promotion de la transparence, de la responsabilité et de l'équité pour bâtir un avenir. La justice est malade. Il faut que se rétablisse et que la personne de l'action de l'IGF.
Essayez de bouger, monsieur Passizapamba, pour améliorer la qualité de la ligne. Elle est en train de se détériorer.
Et donc, disons que il faut que la justice accompagne. Vous voyez, par exemple, les dénonciations faites par l'IGF. Si celles-ci étaient conclues par des condamnations, par la récupération, par exemple, des biens volés, des biens détournés, parce que le président de la République vient de dire tout à l'heure que les fonds destinés, par exemple, pour la formation des enfants congolais, des jeunes, sont détournés. L'alternative, c'est laquelle? Il faudra que ce détourneur soit sanctionné et qu'on récupère le bien détourné et pour que l'on se serve de la sanction des détourneurs comme mobile pour le changement de comportement, surtout de la classe dirigeante. Parce que c'est là que se recrute le plus grand corrupteur et le plus grand corrompu.
Alors, je posais la question tout à l'heure à Ernest Pararo, la question de savoir quels sont les secteurs les plus touchés par la corruption dans notre pays. Il a parlé des institutions politiques, notamment l'Assemblée nationale, où vous siégez, monsieur Passizapamba, vous représentant du peuple, si vous commencez à vous mettre commencez à accepter des pots de vin de certains politiques ou ministres par rapport à certaines motions, comment allez-vous réussir à combattre la corruption?
Madame, vous ne pouvez pas vous étonner parce que vous avez suivi pas plus tard qu'au mois d'octobre dernier. On a présenté les rapports de la reddition des comptes. Lorsqu'on vous dit que 51,3% des dépenses publiques n'ont pas respecté la chaîne de la dépense, c'est-à-dire qu'il faut commencer d'abord par l'engagement. Il faudra que se liquider.
Votre...
Il faudra qu'on ordonne au paysan.
Votre ligne n'est pas... Votre ligne, monsieur Passizapamba, votre ligne n'est pas bonne.
Oui.
Il faut encore bouger.
Je suis... Je suis dans le palais du peuple parce que vous comprenez que nous sommes en train de travailler jusqu'à cette heure-ci. On n'a pas pu s'éloigner du peuple, nous sommes en train de travailler. Vous savez que nous devons traiter la motion de défiance. Et donc, c'est pour autant dire, madame, je ne sais pas si ça s'améliore
oui,
maintenant.
Oui, ça, c'est oui.
Vous comprenez que lorsque 51,3% des dépenses ne respectent pas les schémas planifiés pour pouvoir assurer la transparence, pour permettre la redevabilité et pour améliorer la gouvernance, et qui font ça, ce sont les institutions. Et il faut, en contrepartie, après qu'on ait déclaré que 51% des dépenses publiques n'ont pas respecté la procédure, il fallait que s'en suive maintenant un contrôle rigoureux pour savoir cet argent sur le 51%, c'est plus que la moitié du budget, qu'on pose la question, qui ont bénéficié de cet argent? Dans quel cadre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la République? Est-ce que ce sont des projets porteurs de croissance ou bien l'argent est allé dans la poche des individus? Depuis qu'on a terminé les rapports sur la reddition de comptes, avez-vous entendu qu'un contrôle a été déclenché quelque part pour s'assurer de l'utilisation de ces fonds? Et donc, les efforts doivent être fournis. Le président de la République fournit déjà des efforts. Mais il y a des institutions qui existent, il y a des structures qui existent. Ce n'est pas le président de la République qui doit contrôler. Il faut que toutes les structures se mettent en branle. Parce que quand le président de la République parle, sa parole a force de loi. Et donc, toutes les structures qui pensent qu'on s'arrête au discours du président de la République, voilà toute la faiblesse des institutions. Et c'est tout à fait normal que cette corruption, qui semble être désacralisée dans notre pays, permet donc au plus fort, comme l'a dit le président de la République, ce sont les plus forts qui gagnent et les plus faibles deviennent de plus en plus misérables. Et donc, sur cette ligne-là, nous pensons que il faudra que l'on investisse, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Pararo, comme le soutien également la journée internationale en 2024, il faudra que nous nous mettions tous ensemble aux côtés des jeunes contre la corruption. Il faudra donc que nous puissions façonner l'intégrité de demain. Il faudra que les jeunes soient impliqués dans les efforts de lutte contre la corruption.
Merci.
Il faudra donc...
On vous garde encore dans cette émission, parce qu'il n'y a pas le temps pour nous de donner la parole à Michel Bissa, qui est professeur à l'université de Kinshasa, secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, un laboratoire de recherche en sciences sociales. Professeur Michel Bissa, vous êtes en ligne?
Oui, madame, je suis bien en ligne.
Alors, votre commentaire par rapport à la journée dédiée à la lutte contre la corruption au niveau international, particulièrement en RDC. La RDC, comme l'a dit Ernest Mpararo, parmi les 15 pays les plus corrompus du monde.
Merci beaucoup, madame. D'abord, je salue monsieur Ernest Pararo. Je salue aussi l'honorable Passe Zapamba et tout le travail que la Likoku fait, ainsi que les auditeurs de la radio Okapi. Effectivement, la question de la corruption, tout comme la question des mentalités de manière globale, c'est une question angoissante de notre société et de notre époque. Vous voyez que tout le monde est unanime, en commençant par le chef de l'État, que c'est un fléau dans notre société. Et d'ailleurs, je peux vous assurer que les données de transparence internationale recourent à une méthodologie qui ne fait l'ombre d'aucun doute que c'est ce qu'il fallait. Donc, on a un sérieux problème aujourd'hui. Et vous savez que dans notre pays, nous avons 4 grands problèmes aujourd'hui. Il faut mettre fin au vice. La corruption fait partie de tout ce qu'il y a comme vice. Le chef de l'État, dans son premier mandat, avait mis en place une structure chargée du changement des mentalités. Il fallait qu'on pose la question à cette structure. Qu'est-ce qu'elle a fait? quel type de mentalité on a changé, on a travaillé sur quoi? Évidemment, si on met fin à la question de la corruption des vices, on pourra alors mettre fin à la guerre, mettre fin à la faim et mettre fin aux discriminations à travers un programme national de cohésion. Mais ce qui nous fait mal aujourd'hui, madame, c'est que ce sont des actions disparates. Il n'y a pas un plan national, un programme national de changement de mentalité dans lequel programme on devrait savoir de manière chiffrée, chronométrée, chaque année on fait quoi dans les domaines de la lutte contre les antivaleurs dont la corruption. Aujourd'hui, il y a eu le lancement des ateliers des états généraux du portefeuille et le chef de l'État est revenu sur la problématique des conflits entre les membres des différents conseils d'administration. On peut bien comprendre ce conflit gravite autour de quoi. Maintenant, madame, si on avait ces plans, on pouvait être alors capable d'abord de catégoriser les types de corruption et les différentes modalités que la corruption prend dans notre société. Je ne suis pas d'accord avec l'idée de mon ami Ernest qui dit que ce sont les institutions politiques. Oui, les institutions politiques et les acteurs politiques et judiciaires font une corruption qui porte un coup fatal à l'avenir de la nation. Mais madame, c'est un problème de l'homme congolais en général. Je vous assure qu'à l'école maternelle, aujourd'hui, nous avons des parents qui se permettent de corrompre à l'école maternelle où personne n'échoue, tout simplement pour que son enfant soit classé parmi les premiers de la classe. Nous avons des problèmes de corruption au quotidien, la corruption de proximité. Monsieur Ernest Pararo a parlé des hôpitaux, mais aller dans les transports, aller devant les roulages sur la chaussée, ce qu'on appelle mbote ya likasu, ça se fait devant tout le monde et ça finit à ne plus choquer personne. Dans les écoles primaires, la formation des bases, même dans la famille. Madame, comment est-ce qu'on constitue la famille aujourd'hui dans notre pays? Allez à la commune pour vous imaginer comment est-ce que, observer les pratiques que les gens font pour faire célébrer leur mariage, vous vous rendez compte que l'institution des bases de la famille, de la société, la famille, est déjà construite à partir de la corruption de proximité. C'est pour dire quoi? Que c'est toutes les structures de socialisation qui sont touchées aujourd'hui, en commençant par la famille, l'école maternelle, primaire, université, les églises, les partis politiques et les dirigeants. Les gouvernants ne viennent que de ces structures de socialisation. On ne peut pas lutter contre cette corruption avec des discours et des actions éparses. Mais aussi la problématique de la sanction qu'a évoqué l'honorable Passe Zapamba. Oui, la sanction, ce n'est qu'un des éléments. Il faut un véritable programme de socialisation des gens à la société contre la corruption. Aujourd'hui, dans les bulletins à l'école primaire, la mention conduite a disparu. Ou observer les bulletins des enfants, on ne renvoie plus aucun enfant parce qu'il s'est méconduit à l'école, à l'université.
Ça dépend des écoles, professeur Bissa.
Oui, madame, je vous dis que nous avons fait une étude, à part quelques écoles catholiques, on a recensé autour de plus de 10 000 bulletins des enfants et nous étions au-delà de 60% des écoles qui ne remplissent plus cette mention-là. Et des écoles où on ne renvoie plus les enfants pour mention de conduite. À l'époque où moi j'ai étudié, madame, vous pouviez avoir 80% à l'école. Si la conduite n'est pas bonne, vous pouviez être renvoyé de l'école. Aujourd'hui, la problématique de la corruption à l'école est entrée. La punition à l'école des enseignants demande des objets matériels. C'est une forme de corruption. J'étais en train de dire, madame, que le problème chez nous, il faut que nous ayons un programme national de changement de mentalité et de cohésion nationale. Dans ce programme, nous devons avoir la problématique de la justice distributive. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que les gens sont corrompus parce qu'ils sont mal payés. Non. Plus ils sont payés, et d'ailleurs, M. Pararo l'a dit, les députés nationaux du Congo sont parmi les mieux payés de l'Afrique. Mais s'il y a encore des corruptions dans ces institutions, cela veut dire que ce n'est pas tant un problème du paiement. C'est plus un problème de l'homme, le comportement de l'homme. essayer d'investir, madame, aujourd'hui dans le pays. Moi, j'ai une expérience personnelle, j'ai essayé de faire des chants parce que nous encourageons les étudiants à refaire le mariage avec les villages, mais même dans les familles, vous ne pouvez plus faire confiance à quelqu'un pour faire un champ petit élevage. Essayez d'investir dans le domaine des taxis, dans le domaine des transports, partout c'est la corruption, c'est l'homme congolais de chaque jour.
Est-ce que vous voulez dire par là, professeur, que la corruption est devenue un problème inhérent à la nature humaine?
J'étais en train de dire que dans notre société, nous avons banalisé et sous-estimé pendant une longue période l'éthique, l'intégrité. Nous avons érodé sa place dans le programme de formation des bases à l'école primaire, à l'université. Personne ne contrôle ce qui se passe dans les églises. Conséquence, nous avons formé une génération de gouvernants et de gouvernés moralement nuls. Et alors, c'est un problème de l'homme congolais. C'est vrai. Il faut des sanctions. Il faut des mécanismes de suivi. Il faut tout un programme de socialisation.
Merci.
De l'éducation. Dans nos médias, comme ça que vous êtes en train de faire la Radio Capi, combien de chaînes de télévision consacrent un peu de temps à parler de ce fléau aujourd'hui?
On vous garde encore dans cette émission le temps pour nous de prendre ces nombreux auditeurs qui appellent sur notre standard, qui veulent aussi donner leurs avis sur le thème de ce soir. On va se rendre à Bukavu pour écouter Fikiri qui nous appelle.
Fikiri Chomba, je vous appelle depuis Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Avec une justice malade, inféodée à l'exécutif. Je ne vois pas la RDC s'en sortir de ce fléau de la corruption. C'est vraiment utopique de croire à un changement de cette mentalité institutionnalisée. Pour moi, la révélation de l'ONG Transparency International, plaçant la RDC parmi les 15 pays les plus corrompus du monde, devrait interpeller la gouvernance actuelle qui excelle dans les scandales. Il n'y a aucune volonté politique pour stopper la corruption. Que ce soit les chefs de l'État et l'IGF qui ne se limitent qu'au populisme, mais dans les faits, il n'y a rien pour essayer de diguer ce fléau.
Ernest Amparo, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, madame, je suis en ligne, oui.
Alors, vous avez suivi cet auditeur qui estime qu'on ne sent pas de volonté politique pour mettre fin ou éradiquer ce fléau en RDC. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il pense aussi que ce que l'IGF fait se limite seulement au populisme, mais pas dans les faits.
Bon, effectivement, je suis d'accord avec l'auditeur, étant donné que... Comme je l'ai dit, c'est le président de la République qui devrait donner le go en appelant les autres partis de l'Union sacrée pour dire, écoutez, nous sommes en danger, le pays est en danger, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons d'abord stopper la corruption. Celui qui sera pris, mais dans le sac, sera sanctionné. Comme c'est que l'honorable avait dit, où 51% de paiement dans le budget s'est fait hors chaîne de la dépense, qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait? Absolument rien. On a adopté même le rapport de la reddition des comptes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les politiques se protègent entre eux. Or, pour casser cette chaîne de protectionnisme entre les politiques, c'est le chef de l'État qui doit agir, qui doit appeler ses partenaires politiques pour dire, écoutez, c'est lui qui sera pris, mais dans les sacs, en tout cas, nous faisons comme la Chine, on les pend. Si tous les politiciens sont d'accord, allez, on exécute les choses. Et à ce moment-là, vous verrez qu'il y aura des changements. Mais aussi longtemps que nous, citoyens aussi, nous ne révoltons pas contre ces pratiques, les politiciens aussi en profitent. Donc, d'une façon, nous, citoyens, nous sommes complices de cet effet, parce que nous ne manifestons pas, nous ne révoltons pas, nous ne disons pas aux politiciens, comme on est en train de débattre avec l'honorable Pasikeno, vous, au niveau de l'Assemblée nationale, vous êtes parmi les institutions les plus corrompues, parce que vous ne faites absolument aucune reddition des comptes de vos finances. Depuis 2006, je n'ai jamais vu les rapports financiers de l'Assemblée nationale, donc personne ne vous contrôle, il n'y a aucun contrôle au niveau du bureau. Donc, si nous ne faisons pas cela, donc les politiciens vont continuer toujours à faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je pense, et c'est un appel que je donne aux Congolais, à nos auditeurs, à tous nos compatriotes congolais, nous devons nous lever contre la corruption. Nous devons manifester contre les voleurs, contre les détourneurs, contre ceux qui gèrent mal. Nous devons dire non. C'est notre vie qui est en danger, c'est la jeunesse qui est en danger, parce que aussi longtemps que nous avons ce genre de pratiques, la jeunesse, nous formons une jeunesse dangereuse qui va aussi propager ces mêmes pratiques dans le futur.
On va prendre ce deuxième auditeur qui appelle aussi de Bukavu dans la province du sud Kivu.
Jean Jado Igilima, à partir de Bukavu en province du sud Kivu. La corruption est un fléau qui est à la base du sous-développement en Afrique et dans notre pays, la RDC en particulier. Il s'observe malheureusement que les inspections générales d'État et institutions de contrôle assimilées d'Afrique, dont l'IGF, sont très efficaces pour contrôler les institutions et les mandataires publics selon les choix du régime en place. Ces inspections et institutions de contrôle ne sont pas libres d'exercer, car elles fonctionnent selon les orientations des politiques. C'est le cas de l'IGF, par exemple, qui ne s'est jamais intéressé au dépassement budgétaire de l'institution président de la République. Et pourtant, c'est elle qui devrait être le modèle de toutes les institutions, tant politiques qu'administratives du pays. Tant que les chefs d'État africains ne feront pas de la lutte contre la corruption leur cheval de bataille, celle-ci ne restera qu'un slogan creux.
Monsieur Pasisa Pamba.
C'est là, cette observation, c'est là toute l'importance d'impliquer les jeunes contre la corruption, de façonner ce que nous appelons l'intégrité de demain. Je veux partager un peu le point de vue du professeur lorsqu'il parle de programme de socialisation. Il a raison, parce que dans les différentes étapes de la corruption, il y a ce que nous appelons la prévention et la répression. Quand on ne construit pas correctement la famille, comme on l'a dénoncé, parce qu'il s'agit d'un problème d'homme, il s'agit d'un problème d'éducation, je suis d'accord sur ce point de vue, mais les degrés de corruption atteints par le Congolais aujourd'hui nécessitent que la sanction soit l'exemple. Je vous l'ai déjà dit, madame, dans votre émission, il suffit seulement de prendre de membres des institutions que vous avez citées, 2, 3, 4, sanctionnés de la manière la plus belle et la plus correcte. Je pense que cet exemple-là peut servir pour redresser l'homme, pour formater l'homme dont on a besoin pour la bonne gouvernance. Quant à dire qu'il y a un principe de sélection du côté de l'IGF, notre auditeur Jado, bon, ça dépend de la perception qu'il a, mais à ce que je sache, à la date d'aujourd'hui, l'IGF a démontré quand même à la face du monde qu'il a pas un travail de qualité, mais seulement ce travail n'est pas soutenu par l'étape suivante, comme j'ai eu à le dire. L'administration ne peut pas sanctionner. Il y a des gens qui doivent dire le droit. Il y a des gens qui doivent arrêter les peines au regard des infractions commises. Et donc, si le travail se poursuivait jusqu'à la fin, en principe, on donnerait une très grande, une mention correcte à l'IGF. Aujourd'hui, par exemple, il a parlé, l'IGF dernièrement a parlé de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Quand il a parlé de doublons, quand il a parlé de plus de 40 000 qui se payent 2 ou 3 fois. Aujourd'hui, ce n'est pas l'IGF qui devait continuer le travail. Les structures spécifiques qualifiées devaient aller jusqu'à démanteler les 40 000 qui se payent doublement et tous les autres qui s'organisent au niveau de la chaîne de la dépense ou partout ailleurs
pour que le résultat soit présenté et que tout le fauteur de trouble, c'est-à-dire le corrupteur et le corrompu, soit jugé, qu'il soit sanctionné, et quand on ajoutera la socialisation, je pense que nous pouvons aboutir à des résultats.
Merci.
Moi, je donne ma main à couper, tant qu'il n'y aura pas des sanctions négatives, tant qu'on ne verra pas les hautes autorités, pas les envoyer en prison. Non, ça c'est du théâtre. Quand quelqu'un a volé, quand quelqu'un a détourné, on doit récupérer le bien volé. J'ai dit et j'insiste, il va aller en prison après qu'on ait récupéré le bien. Et cela peut servir de leçon pour tout le monde. Et
merci.
Donc, comme l'a dit Ernest, le président de la République a un rôle à jouer parce qu'il est le garant de la nation.
On va à présent prendre ce dernier auditeur qui nous appelle, Gaston Bilambo.
Gaston Bilambo depuis Sangui, province de la Tchopo. L'organisation de cette conférence est une initiative salutaire pour mobiliser les acteurs clés contre la corruption en RDC. En dépit des efforts pour lutter contre ce fléau, la persistance de la corruption, notamment parmi les gestionnaires publics, demeure un défi majeur. Pour lutter efficacement, il est crucial de renforcer l'indépendance des institutions de contrôle telles que l'Inspection générale des finances, IGF, afin qu'elles puissent mener des enquêtes rigoureuses et sans pression. Il faut également mettre en place des actions dissuasives, y compris des peines de prison et des amendes sévères pour les responsables corrompus. Par ailleurs, la promotion de la transparence dans la gestion des fonds publics, l'instauration des systèmes de contrôle numérique et la sensibilisation continue de la jeunesse à travers l'éducation sont des pistes essentielles pour éradiquer ce phénomène.
Alors, ce sont là quelques pistes de solutions que propose Gaston Bilambo pour lutter contre la corruption en RDC. Très brève réaction, professeur Michel Bissa, par rapport aux propositions faites par cet auditeur.
Oui, merci beaucoup. D'abord, je suis d'accord quand il dit que la justice est malade, mais il faut étendre pour dire que la famille est malade, l'enseignement est malade, la société est malade, au finish... C'est l'homme congolais qui est malade. Et la volonté politique ne suffit pas. Il faut aussi le savoir-faire pour lutter contre cela. Il faut les vouloir, les devoirs et tout. Parce qu'on a essayé aussi le programme de tolérance zéro et tout, ça n'a pas marché. Bravo à l'IGF pour le travail qu'il fait, mais à côté de l'IGF, nous avons la Cour des comptes qui devrait travailler. On a créé une direction de renseignement au sein de l'ANR pour les finances qui devrait contribuer dans ce travail de contrôle, on ne sait pas ce qu'ils font. Le code pénal est là, effectivement, des solutions institutionnelles existent, mais ont montré un sérieux problème. Madame, pour conclure, je voudrais dire que la corruption doit être prise en compte dans un cadre global du programme national de lutte contre les vices et les antivaleurs. Dans ce cadre-là, on aura un impact sur la faim, sur la guerre et sur le sous-développement. Mais aussi, il faut diversifier les types de sanctions. La sanction pénale ne suffit pas. Il y a des sanctions sociales. Quelqu'un a volé, on cite son nom à la télévision, ses enfants ont peur, l'IGF a mis quand même un certain nombre de craintes dans les têtes des gens. Il faut également recourir à nos sociétés traditionnelles. Il y avait des sanctions ancrées dans nos valeurs, des sanctions spirituelles, qui faisait en sorte que les gens ont peur du pouvoir coutumier de tel type de pouvoir. À côté de la corruption, il y a l'incompétence, il y a la surpolitisation de l'État, et tous ces antivaleurs-là doivent être combattus pour être sûr que nous pouvons arriver à une société juste. Mais j'insiste, ça doit se faire dans le cadre d'un programme national qui n'existe pas encore aujourd'hui. On doit avoir un document qui fixe les actions mesurables, quantifiables dans la lutte contre la corruption. Merci beaucoup, madame.
Alexandre Kacha, le grand, à mon avis, la jeunesse congolaise n'est pas... pas un acteur clé dans la corruption en RDC. Les autorités sont les vrais acteurs. Junior Idi, nous n'avons que ce Congo comme pays. Il y a encore de l'espoir. Combattons la corruption sous toutes ses formes et nous pouvons changer des narratifs un jour. C'est question de changer la mentalité de l'homme congolais. Il faut le changement de tout homme pour endiguer ce fléau. Merci à Justin Tchomba depuis Kindu, David Owedi depuis Kinshasa. Même au sein de l'IGF, il y a la corruption et les auteurs sont épargnés de par leur appartenance politique. Daniel Tchambala depuis Fungurume, pour notre pays en ce moment crucial, il est impossible de vaincre la corruption tant que ceux qui sont censés de mettre fin à la corruption sont eux qui sont les premiers corrupteurs. Alors, Pararo et Ernesto, nous sommes à la fin de notre émission. Qu'est-ce qu'il faut, voilà, ou quelles mesures faut-il prendre pour prévenir la corruption et pour l'éradiquer?
Effectivement, madame, et comme je l'ai dit, d'abord c'est la volonté politique. Il faudrait que le président de la République puisse donner le go. Ça, c'est la première personne qui doit dire, qui doit interdire ce genre de pratiques en RDC. Aussi longtemps que le président est laxiste, aussi longtemps que le président laisse faire, les autres qui sont tout près de lui ou qui travaillent avec lui et qui l'allient vont continuer à commettre des cas ou des pratiques de corruption. Et c'est comme ça que nous, nous pensons, au niveau de la DICOCO et au niveau de la société civile, nous pensons que c'est la volonté politique qui manque pour effectivement faire changer l'homme congolais, comme ce que le professeur l'a dit. Parce que si on arrêtait quelqu'un et on le pendait, je pense que ça a un impact psychologique, ça aura un impact social pour effectivement changer le comportement des gens. Mais aussi longtemps que nous ne le faisons pas, la faute à qui? C'est aux hommes politiques. Et d'ailleurs, j'encourage mon frère honorable avec qui nous sommes ici pour dire à ses collègues députés, est-ce que vous avez 10% de l'État 90%? C'est un message très clair. Est-ce que vous avez 10% de l'État 90%? Si les hommes politiques s'engagent à stopper la corruption, je vous dis que dans une année, en 2025, on peut avoir un budget de 40 milliards qui pourra financer l'armée pour combattre les M23 et leurs parrains. On peut avoir des écoles, on peut avoir des routes et on peut avoir des centres de santé ou des hôpitaux.
Merci.
Mais aussi longtemps que l'homme politique ne veut pas changer, qu'est-ce que nous faisons? Professeur qui est avec nous ici, est-ce que nous pouvons mobiliser la jeunesse pour effectivement marcher contre les hommes politiques qui ne veulent pas changer de comportement?
Merci Ernest Pararo. Hubert Kabea depuis Kananga, le renforcement de la justice est nécessaire car il ne suffit pas seulement de décrier la corruption mais également mettre la main sur les auteurs afin que ces derniers répondent de leurs actes pour servir d'exemple aux autres. Alors, Monsieur Passy Zapamba, comment renforcer les institutions pour lutter efficacement contre la corruption? Très brièvement.
Très bien. Comme on a parlé de la volonté politique, en sus de la volonté politique, il faut maintenant l'engagement politique. Il faut agir. Les jeunes sont considérés comme des agents de changement. Ils sont capables, eux, de faire façonner les politiques et influencer la société. Et donc, ils doivent eux-mêmes s'auto-prendre en charge pour qu'ils puissent faire pression et aux décideurs et à faire prendre également des mesures anticorruption. C'est le cas, par exemple, de lois anticorruption qui passent d'une législature à une autre sans qu'elles soient votées. Et donc, nous pensons que la sanction, pour moi, je soutiens et je maintiens que la sanction négative peut servir d'exemple et aux corrupteurs et aux corrompus. Mais la jeunesse, elle, doit s'auto-prendre en charge parce que c'est elle le moteur du changement et le moteur de l'intégrité de demain.
Merci, Monsieur Passy Zapamba. Fabrice Debo, coordonnateur du Parlement des enfants et jeunes de la Tchopo à Kisangani. À mon avis, lutter contre la corruption en RDC, c'est tout d'abord le respect et la mise en application des instruments qui luttent contre ce fléau. que nous avons et qui souffre d'application. Ces faces congolais, l'homme politique congolais est la source de la corruption en RDC. Il faut des mesures courageuses qui sanctionnent sans complaisance les politiques. Cette allure va servir d'exemple au reste de la nation. La jeunesse, quant à elle, c'est la distraction qui la caractérise en grande partie. Les jeunes congolais qui nous en particulier ont besoin d'une prise de conscience qui passe par des mobilisations des masses, des politiques d'encadrement et d'encadrement à l'entrepreneuriat et à l'accès à l'emploi. Professeur Michel Bissard.
Oui, merci beaucoup, madame. Je comprends. Je maintiens ce que j'ai dit dès le début. De quelle jeunesse est-ce qu'on peut considérer quel serait l'espoir pour lutter contre la corruption? Madame, je travaille avec les jeunes. Je suis dans les milliers de jeunes et de l'éducation. Je vous dis que déjà la famille est pourrie. La famille, lorsqu'elle est pourrie, elle envoie à l'école des gens pourris. Au niveau de l'école, il n'y a même pas des enfants pour ce qui on peut compter encore aujourd'hui nombreux. Il faut que l'État prenne en place ses responsabilités, mettre en place un programme national de lutte contre les vices et les antivaleurs. La corruption n'est qu'un des éléments de ce programme-là. L'État doit resocialiser les gens en commençant par la famille, par l'école, pour être sûr que demain nous aurons des dirigeants qui valent la peine. Tous les dirigeants qu'on est en train de cibler viennent de nos familles, viennent de nos églises, viennent de nos partis politiques, et donc ils viennent des structures de socialisation en conséquence, malgré les élections, malgré les gens qu'on prend dans la diaspora, tous font la même chose. C'est l'État qui a failli, et il faut que l'État se ressuscite, c'est là où je suis d'accord, qu'il faut une volonté politique, qu'il faut un engagement politique, mais il faut surtout un dialogue avec la société, un dialogue avec l'université pour bien faire les choses.
Merci.
Et les institutions qu'on a mises en place pour lutter contre pour le changement de mentalité, en tout cas, n'ont pas produit ce qu'elles devraient faire.
Merci, professeur Michel Bissard. On va lire très rapidement quelques autres réactions des internautes. Vianney Moukandiroi, depuis Goma au Nord Kivu, ceux qui sont censés punir sont les mêmes à être corrompus. Kambale Kakwashi, il faut commencer par les acteurs politiques qui sont à la base de ces fléaux, car la jeunesse les observe. Dit-on tel père, tel fils, c'est pourquoi il faut sanctionner sévèrement. Il faut sanctionner sévèrement. Gervais Moussas, depuis Mbujimayi, la lutte contre la corruption en RDC demande un engagement collectif et une volonté politique forte. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Donna Madimba qui a réalisé ce magazine. Jonathan Fralani et Hervé Voka, était derrière la caméra. Alain Goy et Debs Vita ont été à la mise en onde, présentation et coordination, Kéline Couté. Merci à Martin Sebujangwe qui a supervisé ce programme. Bonne suite, restez branchés plutôt sur la fréquence de la paix.